Christine, de nouveau au micro. Donc, je vais vous parler pendant ces quelques minutes de philosophes, de philosophie. La philosophie rend-elle heureuse? Ces deux essayistes qui répondent à Elsa Godard. Ensuite, la tentation du blanc. Disons, on parle de disparition avec le sociologue David Le Breton. Et enfin, Socrate ou Montaigne sont-ils de véritables maîtres zen? C'est un entretien avec Fabrice Midal par Elsa Godard. Alors, excusez-moi, j'ai perdu ma page. La philosophie rend-elle heureux? Les ouvrages de philo proposant d'accéder au bonheur se vendent comme des petits pains. Promesse marketing ou essence même de la discipline. Deux philosophes tranchent. C'est Elsa Godard qui a interviewé Alain Badiou et Roger Polledroit. Alors, la philosophie rend-elle heureux? Oui, pour Alain Badiou. Pour Alain Badiou, philosophe engagé, si l'on en croit Platon ou Spinoza, la philosophie est un chemin qui conduit au bonheur. Et même plus que cela. Car, dit-il, toute philosophie, et surtout si elle est étayée par des savoirs scientifiques complexes, des œuvres d'art novatrices, des politiques révolutionnaires, des amours intenses, est une métaphysique du bonheur, ou bien elle ne vaut pas une heure de peine. Il estime qu'elle est une nécessité dans notre monde contemporain. Il ne faut pas, assis dans ta chambre, interpréter le monde, dit-il. Il faut le transformer. La philosophie doit donc être une action sur le monde pour le changer, nous dit Elsa Godard. C'est pourquoi elle parvient à dégager la voie pour convaincre, penser contre les opinions et au service de quelques vérités, loin d'être l'exercice ingrat et vain que tu imagines, tout ça entre guillemets, est le chemin le plus court pour la vraie vie, laquelle, quand elle existe, se signale par un incomparable bonheur. Alors tout cela, vous pouvez le trouver dans le livre d'Alain Badiou, Métaphysique du bonheur réel, Paris aux éditions PUF, Presse universitaire de France. C'est un livre de 96 pages. Et la philosophie rend-elle heureux? La deuxième question, elle a été posée donc à Roger Polledroit. Et lui, il va dire non. Roger Polledroit, qui est donc philosophe, chercheur et journaliste, lui se révolte contre cette récupération de sa discipline comme seule technique de développement personnel. Un peu de philosophie, nous dit-il, votre vie se vivifie et si vous persévérez, le bonheur est assuré, s'amuse-t-il de nouveau. Contre la philo censée guérir tous les maux existentiels, contre les nouveaux prêtres du bien-être, les philosopho-bonheuristes, entre guillemets, l'auteur clame haut et fort qu'il ne devrait pas y avoir d'injonction à être heureux. Il rappelle que, pour Platon, Épicure et les stoïciens, le bonheur ne recouvrait pas le sens qu'on lui prête aujourd'hui. Roger Polledroit démontre également plusieurs présupposés, comme celui que tous les humains désireraient le bonheur. Entre guillemets, la philosophie, au lieu de courir après le bonheur, cherche la vérité, toujours et inlassablement. Alors Roger Polledroit, lui, il a publié « La philosophie ne fait pas le bonheur », et c'est tant mieux, aux éditions Flammarion, 212 pages. Alors je poursuis avec La tentation du blanc, c'est Christilla Pellé-Douel, qui interroge David Le Breton, sociologue. L'envie de disparaître est un désir humain. Plus nous savons vivre, plus nous redoutons de le faire. L'histoire n'est pas nouvelle. La fuite, l'échappée dans la folie ou le mutisme ont accompagné l'humanité depuis les origines. La nouveauté, nous dit le sociologue David Le Breton, dans ce remarquable essai, qui s'intitule « Disparaître de soi, une tentation contemporaine », c'est que notre société contemporaine exige de nous une surexistence, une affirmation permanente de soi à travers l'invention de nos vies. Exposition sur les réseaux sociaux, réussite, etc. etc. Nous voilà confrontés à nos manques. Sommes-nous à la hauteur de cette tâche immense? Certains y parviennent, d'autres trébuchent. La fatigue d'être soi, entre guillemets, donc ça c'est le titre d'un livre d'Alain Ehrenberg, aux éditions Edil Jacob. La fatigue d'être soi qui provoque cette tentation contemporaine se répand dans toutes les couches de la société, à tous les âges et sous toutes les formes, qu'il s'agisse d'anorexie, maigrir jusqu'à disparaître, des jeux d'asphyxie, du burn-out, des drogues, des disparitions inexpliquées. Dans des pages saisissantes, le sociologue décrit ces évanouissements, qui ont pour point commun l'effacement de la sensation, le souhait ultime de se « déprendre de soi », entre guillemets. Pour nous éprendre à nouveau de notre vie, suggère-t-il, soyons attentifs, pour nous et pour nos enfants, à nous ménager des arrière-boutiques. Et j'apprécie, et je trouve ça très beau, ces arrière-boutiques. Je trouve que c'est une belle formule. Telles que la lecture, donc des arrière-boutiques comme la lecture, les voyages, la musique qui nous sort de nous-mêmes. La tentation du blanc, disparaître de soi, une tentation contemporaine de David Le Breton, c'est paru pour ceux que ça intéresse aux éditions Métellier et c'est un volume assez conséquent, 208 pages. Et maintenant, Socrate aux montagnes sont de véritables maîtres zen, dont nous dit-on, c'est Fabrice Midal, philosophe, qui a été interrogé par Elsa Godard et qui nous dit, donc Fabrice Midal, éclectique, a créé une école de méditation et dirige une collection, dont je vous parlerai tout à l'heure rapidement. Son dernier ouvrage montre que la philosophie et méditation, loin de se repousser, peuvent au contraire se compléter, s'étayer. Quel est l'intérêt d'aborder la philosophie par la méditation, demande Elsa Godard. La méditation n'est pas qu'une discipline orientale. Elle nous permet de retrouver quelque chose de la philosophie qui nous est resté inaperçu. Il existe bien une dimension méditative. En latin, mederi signifie « prendre soin ». Donc une dimension méditative de la philosophie. La restaurer est tout l'enjeu de ce livre, avec 22 propositions et de nombreux exercices qui permettent de mieux comprendre comment Socrate ou Montaigne peuvent être de véritables maîtres zen. Comment la philosophie peut nous sauver? Pourquoi un tel titre, puisque c'est le titre de son ouvrage? Parce que la philosophie nous sauve, elle nous rend libres à un moment où notre liberté est menacée de toutes parts. Et elle nous montre comment retrouver confiance dans notre existence. C'est un travail patient de libération que je crois juste de qualifier de méditatif et en cela véritablement révolutionnaire. Alors ces propos ont été recueillis donc par Elsa Godard, elle nous parle également de cette collection donc de Fabrice Midal dans un monde en métamorphose où les repères vacillent. Et Dieu sait qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui vacillent. Chacun a besoin de revenir à l'essentiel pour avancer, d'où la nécessité de livres solides. C'est dans cet esprit que Fabrice Midal dirige la collection Évolution, au catalogue des ouvrages d'experts, de maîtres de sagesse ou de thérapeutes, comme Mathieu Ricard notamment, Frédéric Lenoir, Tal Ben-Shahar, qui relève le défi de nous aider à penser, à vivre mieux, seuls et ensemble. La collection Évolution est éditée chez Pocket.
Alors, Louise, au micro, il ne faut pas les cacher. Je vais parler de beauté, finalement.
Ah,
on va voir de quel genre de personne qu'il ne faut pas cacher.
On était un petit peu déçus, hein, mais on va...
Alors, c'est un article d'Isabelle Audet dans la presse publié le 22 août dernier. Jacob Foucault a 2 ans, un sourire ravageur et des lunettes rouges qui lui donnent un air espiègle. Depuis qu'il a 10 mois, sa mère et lui courent les séances de photographie et les défilés de mode. Une feuille de route déjà bien remplie avec une particularité, il est né avec une trisomie 21. Donc, je trouve ça super qu'on représente vraiment d'autres genres de visuels, disons.
Il y a plusieurs formes de beauté.
Exactement.
Exactement, la beauté.
Il n'y a pas un enfant qui est laid, en fait.
Non.
C'est
non,
ce que je trouve, là. Ce n'est pas parce que mon enfant est différent qu'il n'a pas le droit de faire de la publicité lui aussi. C'est dans ma nature de vouloir bien habiller mon enfant, qu'il soit trisomique ou pas. Le but n'est pas d'effacer sa trisomie. Ce sera toujours là, mais je crois qu'on peut regarder ces enfants-là autrement, explique sa mère, Suzy Costa. Comme Jacob, plusieurs mannequins avec la trisomie 21 ont fait leur place sous les projecteurs au cours des derniers mois. L'actrice américaine Jamie Brewer a brisé la glace en défilant à la Fashion Week de New York en février dernier, et l'Australienne Madeleine Stewart suivra ses traces en septembre. Au Québec, le jeune Johan Girard, 5 ans, est quant à lui un des visages de la collection d'automne de Véronique Cloutier pour l'Aubainerie. « C'est merveilleux », s'exclame Suzy Costa. « Je suis enchantée chaque fois qu'on voit un mannequin différent. Il ne faut pas les cacher. Vous savez, ils ne se promènent pas tout nus, ils s'habillent aussi. Pourquoi alors ne pas les intégrer à la publicité? On n'a pas un enfant moins beau qu'un autre. C'est sûr que le regard est parfois différent, mais c'est joyeux. Je n'ai jamais eu de malaise. Un enthousiasme que partage Jannick Fournier, la mère de Johan, tout sourire sur de récentes publicités de l'aubainerie. Le garçon a été choisi spécifiquement parce qu'il a une trisomie 21. Sa mère a répondu à l'appel de l'équipe de Véronique Cloutier et a envoyé une photo de ses enfants. Quelques semaines plus tard, le téléphone a sonné. Johan vivrait sa première expérience de mannequin. Nous, on a adopté nos enfants, Johan et Emma. On est fiers de nos enfants trisomiques et on les traîne partout. Sans faire de la provocation, on veut qu'ils fassent partie de la société comme tout le monde. Je veux montrer notre bonheur et montrer que la différence, ça peut ajouter un sourire dans ta journée. Une expérience positive pour l'aubainerie, assure le vice-président marketing Richard Caron. En marketing, on a des responsabilités. On a le devoir de diversité. Ça va de l'inclusion de personnes différentes à la qualité de la langue. On a un impact et il faut en être conscient. Avec mon chum, on a été surpris de la grande réaction à la participation de notre enfant à la publicité. On est quand même en 2015. Mais moi, j'aime que les gens se questionnent. Je me dis que tant mieux, on aura fait avancer les choses. Jannick Fournier, mère de Johan, jeune mannequin pour la collection Véro de l'aubainerie. Une entreprise à la fois. Cette inclusion, c'est le combat quotidien de Cathy Driscoll, fondatrice de l'organisme américain Changing the Face of Beauty. Mère de 6 enfants, dont une fillette de 5 ans née avec la trisomie, elle croit fermement que l'intégration des personnes avec un handicap passe entre autres par la publicité. Après la naissance de ma fille, j'ai été bouleversée de constater à quel point elle n'était pas représentée dans notre monde. Même si je suis consciente des défis qui l'attendent, je veux que les gens puissent la voir. Il y a plusieurs moyens d'y arriver et je crois que la publicité et la mode peuvent aider à changer les choses rapidement. Au cours de la dernière année seulement, son organisme a amené une centaine d'entreprises à intégrer de jeunes mannequins avec un handicap visible, physique ou intellectuel, dans leur campagne. Ces jours-ci, le détaillant de chaussures Livy et Lucas a créé la surprise aux États-Unis en intégrant des jeunes différents à sa campagne de rentrée. Le slogan « Je rentre à l'école moi aussi » a reçu un accueil enthousiaste sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous imaginer si les gens pouvaient avoir ces différences tout le temps? Nous n'aurions pas à dire « accepter mon enfant » car la population serait constamment exposée à la différence. Ce serait normal, s'exclame Cathy Driscoll. Et les adultes? En parcourant le nom des entreprises avec lesquelles travaille Changing the Face of Beauty, un constat s'impose. Les mannequins différents mis de l'avant sont en presque totalité des enfants. Est-ce que le monde de la mode est prêt à faire une place à des adultes différents? Déjà, qui sont un peu anorexiques.
Ceux
qui...
Oui, ben oui.
Ça va être déjà de mettre du monde normaux. Ça va être...
Dit normaux?
Mais je veux dire, aux grandeurs normales.
Il y a des choses qui changent, hein, même avec l'obésité.
Oui, mais ça ne change pas super vite.
Non,
ça change lentement, mais sûrement peut-être.
Donc, pour être honnête, il est beaucoup plus facile de faire une place aux enfants avec un handicap qu'aux adultes avec la même condition. Est-ce que l'on veut se limiter aux entreprises de produits pour enfants? Non. Notre objectif est d'influencer toutes les grandes marques. Plus notre influence grandira, plus nous pourrons convaincre des entreprises de produits pour adultes à emboîter le pas. Néanmoins, la présence de mannequins adultes avec une trisomie à la célèbre Fashion Week de New York enthousiasme la mère de famille. C'est un début. Alors, pour continuer dans la beauté, il y a quelqu'un qui a parti une entreprise de camions de beauté. C'est pas encore disponible, mais l'idée est fort intéressante. C'est Isabelle Morin qui a écrit dans la presse du 26 août l'article suivant. Après la cuisine et depuis peu la mode, c'est au tour de la beauté de sortir dans la rue pour aller à la rencontre du client, cette fois dans l'idée de mieux le bichonner. Ne cherchez pas les camions de beauté dans les rues. Le concept est encore assez balbutiement. Dès le printemps prochain, toutefois, un premier véhicule sortira de l'environnement douillet de son salon d'esthétique pour offrir ses services de coiffure, de maquillage et de pédicure-manucure chez le client. Son nom, la Rousse Mobile. L'idée a germé il y a 3 ans dans la tête de Sophie Tessier, propriétaire du salon du même nom situé sur le boulevard Saint-Laurent. À l'époque, on me sollicitait déjà pour des mariages. Souvent, les filles louaient des chambres d'hôtel pour se faire coiffer entre elles. J'ai voulu pousser l'idée plus loin avec ce concept. À compter de mars ou avril, la Rousse mobile devrait être en mesure de se déplacer pour offrir ses soins de beauté dans divers événements, des bachelorettes, des bals de fin d'études, des mariages, des anniversaires et toute autre occasion de faire la fête entre filles et en beauté, le tout dans un esprit très girly. Explication, les clientes recevront leurs soins dans le décor shabby chic du camion où champagne et mimosa seront aussi offerts pour égayer l'atmosphère. Au forfait, on pourra aussi opter pour des petits canapés. La formule pourra, nous dit-on, s'adapter aux besoins des clientes. La Rousse se penche actuellement sur les derniers détails. Une chose est certaine, ce sera festif au féminin.
Quelque chose à manger ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges.
Elle est modeste,
elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant. Tu parles peut-être même d'amour. Ouais, mais tu parles tout le temps. Tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute.
Tu te vautres,
tu sais c'est dû, pareil au même. Quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même. Tu parles trop, tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop, tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop,
tu parles trop.
Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute.
Hey, écoutez, on avait du plaisir. On avait du plaisir en studio, on se parlait de toutes sortes de choses. Alors, oui, j'aurais donc dû me taire. Est-ce que vous êtes... La rue qui est à nous, la rue qui est à nous. Ah, la rue qui est à nous, la chanson qu'on vient d'entendre, qu'on trouvait bizarre quand elle a commencé. Alors, on continue sur cet élan de bonne humeur. Et je vous pose la question à la maison ou ici en studio. Est-ce que vous êtes déjà posé? J'aurais donc dû me taire. J'ai encore trop parlé.
En fait, on vient de le faire.
Ben là, c'est ça qu'on est en train de faire. Si je parle pas plus là, de mon article, j'aboutirai pas. Alors, c'est un sujet qui est intemporel puisque c'est un article de Jacqueline Simoneau paru dans Le Bel Âge 2014, mais encore aujourd'hui. Le titre, « Je parle trop ». Alors, c'est plus fort que vous. Vous répondez à une simple question en racontant en long et en large le comment et le pourquoi. Vous prenez 10 minutes pour expliquer votre point de vue et vous coupez la parole. Attention! Les gens qui parlent trop ont souvent le don de se mettre les pieds dans les plats et de blesser les autres avec leurs propos. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on exaspère tellement nos interlocuteurs qui n'ont qu'un souhait, prendre leurs jambes à leur cou.
Mes amis me téléphonaient de moins en moins, raconte Marthe, et lorsque je les appelais, elles prétextaient souvent une tâche à terminer ou un appel sur une autre ligne ou encore un petit poulet à aller mettre au four. J'ai fini par m'en plaindre à l'une d'elles. Elle m'a avoué simplement qu'elle n'en pouvait plus des conversations à sens unique. Selon elle, je ne laissais pas placer un mot, je parlais en même temps qu'elle, ou pire, je ramenais tout à moi. Ça, c'est fatigant, des gens comme ça. Si une personne me disait d'être allée à tel endroit, j'enchaînais aussitôt en racontant ma propre histoire sans me préoccuper de ce que l'autre voulait me dire. Selon Camillo Zacchia, psychologue, les gens qui parlent trop sont souvent inconscients de l'effet qu'ils produisent chez les autres. Pire, ils sont généralement les derniers à s'en apercevoir. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à agir ainsi? C'est le plus souvent une question de personnalité, mais aussi de circonstances. Certaines personnes peuvent avoir énormément confiance en elles au travail, par exemple, mais perdent tous leurs moyens face à un individu qu'elles admirent, déclare Camillo Zacchia. La nervosité les entraîne alors dans un flot de paroles. D'autres personnes font tout vite, marcher, manger et parler. D'autres encore coupent la parole afin de ne pas oublier leurs idées. Parfois aussi, c'est par narcissisme qu'on parle trop. On en connaît tous, hein? D'après la psychologue Stéphanie Léonard, ce comportement se remarque également chez les individus ayant peu confiance en eux ou souffrant d'anxiété sociale. Le silence. Souvent aussi, il s'agit de personnes qui tolèrent mal les silences dans une conversation. Faites le test. Hein? Elles parlent pour combler ceux-ci, même si ce n'est pas nécessaire. Il y a de bons silences. Les silences qui en disent long aussi. Les silences durent rarement plus de quelques secondes et permettent souvent aux gens de restructurer leurs pensées. Mais un fait demeure, plus on parle et plus on risque de parler à tort et à travers et de dire des choses qu'il aurait été préférable de taire. Les mots qui blessent. Oui, trop parler pour meubler des silences ou parce qu'on a trop à dire, c'est une chose. Mais avoir des propos blessants, volontairement ou non, c'est une autre histoire. C'est ce qui est arrivé à Luc. Un copain a tenu devant moi des propos désobligeants au sujet d'un ami commun, et lors d'une rencontre avec cet ami commun, je n'ai pu m'empêcher de tout lui rapporter. J'aurais dû me taire. La relation entre nous trois n'a plus jamais été la même. Aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est connu. Certaines personnes ont de la difficulté, vous en connaissez, à distinguer l'information qui doit rester confidentielle de celle qu'elles peuvent divulguer. D'autres sont incapables de garder un secret ou encore veulent ainsi se donner de l'importance. D'autres encore disent tout révéler par loyauté. C'est généralement aussi la proximité avec la personne qui détermine jusqu'où l'on peut aller quand on a des choses à dire. S'il s'agit de quelqu'un avec qui l'on partage un lien émotionnel important, on peut sans doute lui dire « Écoute, telle personne a parlé de toi de façon négative. Je tenais à te le dire. » Mais on peut se demander aussi si l'on aimerait soi-même savoir que quelqu'un a parlé dans notre dos. Ah! Vous avez blessé quelqu'un par vos propos? Il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. Si vous réalisez que vous êtes allé trop loin, la meilleure façon de réparer, c'est de dire que votre intention n'était vraiment pas de la blesser. Ensuite, vous pouvez vous excuser et peut-être clarifier certains points. Toutefois, si cette situation se répète souvent, interrogez-vous. Des solutions? C'est pas question de devenir muet, hein? Et il faut doser. Alors, observez-vous. Quand vous êtes en situation avec des gens, est-ce que vous coupez la parole, par exemple? Interrogez aussi vos proches en leur demandant des petits conseils, si vous posez trop de questions, etc. Évaluez vos performances. C'est comme après une rencontre avec une personne, évaluez si vous avez trop posé de questions, dans quelles circonstances vous avez trop parlé, est-ce que mes propos étaient appropriés, etc. Donc, évaluez vos performances pour mieux avoir une meilleure chance la prochaine fois. Préparez des scénarios. En notant vos erreurs, vous pourrez apporter des correctifs et aussi imaginer de nouvelles façons d'agir. Alors, lorsqu'on se trouve dans une situation qui déclenche habituellement nos bavardages, on a intérêt à respirer lentement et profondément, souligne Stéphanie Léonard, psychologue. Soyez à l'écoute. Est-ce que votre interlocuteur parle autant que vous, ou presque? Est-ce qu'il vous raconte des choses ou vous pose des questions? Est-ce que vous écoutez autant que vous parlez? Sinon, faites l'effort d'être plus à son écoute. Aussi, formulez des questions pour créer un échange et soyez attentifs aussi au langage non-verbal. Tu sais, une personne qui balaie du regard la pièce en t'écoutant parler, c'est que probablement, tu commences à moins l'intéresser. Donc, attention à ces signes où Mathieu qui baille. Alors, je suis à veille de terminer. Cinquièmement, informez-vous de l'intérêt de votre interlocuteur. Est-ce que je t'ennuie avec mon histoire? Tu trouves-tu que je parle trop? Et dénicher un complice, proposer une personne que vous aimez de vous aider dans votre démarche. Par exemple, convenez d'un signe, comme par exemple avec Mathieu, d'un signe particulier qu'elle pourrait vous faire lorsque vous retombez dans vos vilaines habitudes. Alors, vilaines habitudes, de trop parler, faites attention. Alors, on est le 2 aujourd'hui?
Oui.
Le 2, hein, le 2 septembre. Et là, on a entendu parler de rentrée scolaire. Hein? Mm-hmm. À Montréal, ça a commencé. Sur la rive sud où j'habite, c'était. Je suis allée dans certains magasins où j'ai vu que le coin du matériel scolaire était envahi, puis les rayons, les tablettes sont vidées. Alors, 54 % des Canadiens, sûrement parmi vous les parents, n'ont pas de budget. Les dépenses scolaires sont le lot de nombreuses familles. Pourtant, près de 54 % n'ont pas de budget et se lancent dans des achats sans y penser. Toutefois, durant la rentrée scolaire, 59 % des parents en profitent pour sensibiliser leurs enfants à la valeur de l'argent et à l'importance de fixer un budget.
Eh bien, merci Daniel. Tout ceci conclut notre émission. On espère qu'on ne vous a pas ennuyé à bien vous parler ainsi. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir pour cette émission en ce qui nous concerne, Dernière Formule. Merci à Mathieu, merci à Louise, Daniel. Rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle formule, les voies de service. Pour ma part, ce sera le jeudi, Louise le mercredi et Daniel
le mardi.
Mardi. Alors à bientôt. Ah oui, retransmis 13h et 21h. À bientôt.
Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à vous tous ici en studio et à la maison aussi. Bonjour à Christine.
Bonjour. Bonjour, Daniel.
Et bonjour à Louise.
Bonjour, Daniel.
Dans cette première demi-heure, il sera question d'insomnie avec la chaleur qu'on a. On va en apprendre un peu plus avec Christine. Et à la rentrée, on veut suivre des formations. Alors, entre autres, apprendre une langue, peut-être pour voyager, pour travailler, que sais-je. Et puis, la grande question, Louise va y répondre. Gaspillez-vous à la maison beaucoup de nourriture? Est-ce que votre poubelle est grassouillette? Alors, Louise va nous entretenir. Dans la deuxième partie de l'émission, être heureux et philosophie, est-ce que ça fait bon ménage? Et Louise va nous aussi parler, il ne faut pas les cacher. Mais quoi? Mais qui? Je ne le sais pas.
Vous allez voir.
On va voir tout ça. Et finalement, je parle trop. Non, je ne parle pas trop. Juste assez. Ce sera un sujet sur lequel je vous entretiendrai. Et entre-temps, je vous en reparle plus tard durant l'émission. Puis avant de trop parler, allons-y.
Alors, j'ai fait de mon insomnie une amie. C'est le récit de Philippe Romond, qui est journaliste à Psychologie Magazine. et qui nous parle de la façon dont il a fait la paix avec ses nuits, cet insomniaque. Une amie psy m'interpelle, tu as fait de l'insomnie ton ami ? Samou est dubitative. Vraiment ? Et pas plus tard que la nuit dernière, oui. Réveil en sueur, 3h du mat, un rêve d'angoisse. Comme une trappe qui fait souvent basculer hors du sommeil. Du rêve à proprement parler. Je ne me souviens plus, mais il reste une sensation, distincte, et pourtant insaisissable, presque douloureuse. Le sommeil a brusquement retiré ses bras protecteurs et m'a abandonnée, aussi désemparée qu'un nouveau-né sur le rivage glacé de la nuit noire. C'est beau. Menaçante, impitoyable. Insomnie, mon ami ? Au matin, je me réveille, nauséeux, lobotomisée. Un goût de sang dans la bouche. Je n'ai pas assez dormi, mais je vais devoir me lever. J'esquisse un mouvement pour sortir du lit. Il faut un certain courage pour cela. Je ne l'ai pas toujours. Pas tout de suite. Nous sommes des millions, en fait, en France, puisqu'il s'agit de Psychologie Magazine, à souffrir d'un mauvais sommeil, et les femmes davantage que les hommes. En passant, au Québec, il y a à peu près un adulte sur trois qui vit de l'insomnie, et l'insomnie chronique touche 10% de la population au Canada. Alors donc, je reprends le fil de mon article. À terme, cette carence génère des problèmes cardiovasculaires, fragilise le système immunitaire, provoque l'obésité et des troubles cognitifs et du comportement. On attribue au manque de sommeil des accidents de la route, des erreurs médicales, des catastrophes aériennes, Tchernobyl. C'est un fléau que nous cherchons à combattre à tout prix, nous dit toujours Philippe Romand. En 2012, en France d'ailleurs, il cite que les Français ont consommé 50,7 millions de boîtes de somnifères. Effectivement, ils sont reconnus pour être les plus gros consommateurs. Mais ceci ne constitue pas, donc les somnifères ne constituent pas une solution dans la durée et leurs effets secondaires sont redoutables, allant d'une forte irritabilité jusqu'à la dépression, voire la tentative de suicide. C'est donc plutôt un ennemi public que s'apparente le manque de sommeil. Et pourtant, j'ai écrit ce livre, Insomnie mon ami. Je pourrais évoquer quelques insomniaques célèbres. Thomas Edison, qui dormait 3 heures par nuit et qui pour cette raison a inventé l'ampoule à filament. Paul Valéry, que suivait un acupuncteur. Ou Vincent Van Gogh, qui dans l'espoir de mieux dormir, appliquait du camphre sur son oreiller. Mais il y a ceux qui ne dorment pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, et les autres, dont je fais partie, qui aimeraient bien dormir plus et mieux. Chacun est seul face à l'insomnie. Autant en faire une alliée. Mais je ne suis pas arrivée à cette conclusion sans un certain travail. J'ai toujours mal dormi. Un jour, je suis tombée sur un carnet retrouvé au grenier chez mes parents. Entre guillemets, la nuit, l'angoisse vient s'asseoir sur mon lit et l'on voudrait que je dorme. Fermez les guillemets, je devais avoir 15 ans. 4 décennies plus tard, mes insomnies sont toujours d'actualité. Je m'endors comme une fleur, mais je me réveille à 2, 3 ou 4 heures du matin et pendant 1 heure ou 2 ou 3, je reste à contempler le miroir imprécatoire de la nuit. En analyse, les insomnies survenant au cours de la nuit sont les plus intéressantes, m'a lancé un ami psy, alors que nous étions attablés devant un cassoulet. Entre guillemets, dit-il, la digestion, bien sûr que ça joue, a commenté mon ami devant le cassoulet. Mais tes insomnies ne révèlent pas que de l'organique, tu le sais bien. Revenons-en à la distinction que tu fais entre ceux qui n'arrivent pas à s'endormir et ceux qui se réveillent dans la nuit, dit Philippe Rom. Pour faire court, lui répond son ami, l'insomnie au coucher est de l'ordre du relationnel. Problème, conflit, insatisfaction sexuelle. Et cela relève du coaching. En revanche, le réveil angoissé au milieu de la nuit tient du tribunal intérieur. Les Freudiens appellent ça les instances, entre guillemets. Le sujet est pris dans un étau, dans une situation qui se présente comme un piège, ou dans le vertige d'un gouffre. C'est tout moi, ça, ai-je soupiré. J'ai à peu près tout essayé, la phytothérapie, l'homéopathie, la méditation. Le problème, si l'on peut dire, c'est que je tiens à mon symptôme. Parfois, dans le froid de la nuit, dans l'épaisseur de la nuit, je me lève et je peins. Oh, c'est sans prétention, du barbouillage de couleurs qui m'apaise. Peindre, c'est un prétexte. Pour observer par la fenêtre un voisin qui rentre de son travail, écouter cette station de radio dont la voix suave tous les quarts d'heure me susurre. C'est la nuit, vous êtes sur TSF Jazz. Je me fais du souci pour toi, me dit Patrick, un autre ami qui opère lui dans le cinéma. Pourquoi ne pas voir le côté positif des choses ? Je ne vois pas en quoi mes insomnies peuvent être positives, répond le journaliste. Je suis de mauvaise humeur, encore une série de trois nuits épouvantables. Quand épuisé, je m'endors enfin, je me réveille en sursaut, en proie à mes terribles angoisses. J'enchaîne sur des exo-cauchemars. Il me regarde par-dessus ses lunettes. C'est pas mal comme formule. Écoute. Tu sais ce que disait Fassbinder, le réalisateur ? Même les monstres s'apprivoisent. À toi de jouer. Si je règle mes problèmes personnels, mes insomnies s'arrêteront d'elles-mêmes, dis-je à mon psy ? Oui. Ni double peine, ni double vie, ils font simplement partie de moi ? Oui. Or, on ne vit pas avec un ennemi en soi. Oui. Mais mes problèmes, je ne vais pas les résoudre comme ça. Ils sont trop nombreux, trop emmêlés. Mon ex-femme, mes enfants, mes parents, le boulot, mes pulsions. Je ne suis pas prêt de m'en débarrasser, donc pas prêt de me débarrasser de mes insomnies. Oui. Autant apprendre à vivre avec. Oui. J'ai l'impression de parler à un moine bouddhiste. Ma compagne s'étire comme un chat. Voilà une bonne journée qui s'annonce. Alors, si vous voulez vous amuser à faire le questionnaire test sur psychologie.com, c'est un questionnaire qui s'appelle « Dormez-vous assez ?» Dites-nous comment vous dormez et nous vous dirons qui vous êtes dans la rubrique « Test ». Je voulais également ajouter quelque chose de fort intéressant. C'est une exposition qui a eu lieu l'an dernier au Québec, au Musée des Beaux-Arts de Québec, journal d'une insomnie collective au Musée national des Beaux-Arts du Québec en avril 2014. Vous pouvez toujours aller voir de quoi il s'agit, c'est sur le blog.onf.ca, allez sur l'onglet interactif. Vous allez y découvrir des choses très intéressantes quand on est sujet à l'insomnie. Donc c'est une exposition qui a d'ailleurs eu lieu à New York également. Moi, pour ma part, j'aimerais beaucoup qu'elle soit de nouveau, qu'elle soit renouvelée. Également, Fondation du Sommeil. La Fondation du Sommeil existe, pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont des insomniaques, nouveaux insomniaques. Fondationsommeil.com à Montréal, 514-522-3901, sur le téléphone, je répète, 514-522-3901. Et c'est ceci qui conclut mon article. À bientôt.
C'est le moment de penser à apprendre une langue, peut-être pour voyager. Est-ce que vous avez déjà appris une langue pour voyager?
Je suis en train d'apprendre l'italien.
L'italien.
Ou oui. Alors la nuit, pour ceux qui sont
insomniaques. Ah, pour la nuit, pour ceux
il
et celles
que
qui sont...
ne marche pas.
Ah, peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Alors, c'est un texte que j'ai trouvé sur Internet et qui est un... C'est 10 trucs et astuces pour apprendre une langue. Et c'est de John Eric Jordan. Il s'agit de Matthew Yulden qui parle, lui, 9 langues couramment et en apprend 12 de plus. C'est quelque chose,
wow.
Hein? Hein?
Wow.
Mathieu lève les bras dans les airs. Comme on travaille dans le même bureau à Berlin, John dit qu'il l'entend constamment passer d'une langue à une autre, tel un caméléon qui change de couleur. En fait, pas très longtemps, pendant très longtemps, John a pensé que Mathieu était autre chose, mais surtout pas un Anglais. Donc, c'est un Anglais, John. Mathieu, quand j'ai raconté à Mathieu mes difficultés, moi, pour apprendre ne serait-ce qu'une seconde langue, il m'a donné plusieurs conseils. Donc, voici. Alors, il faut tout d'abord avoir de bonnes raisons, de bonnes sources de motivation. Ça peut paraître évident pour beaucoup, mais si vous n'avez pas une bonne raison d'apprendre une langue, vous aurez moins de chances de rester motivé sur le long terme. Alors, Louis, je ne sais pas c'est quoi votre motivation d'apprendre l'italien?
Mon amour de la langue d'italien, ça sonne tellement bien.
Et peut-être pour parler des Italiens ou un bel Italien. Alors, pour un anglophone, entre autres, la motivation d'apprendre le français, ce serait de pouvoir communiquer avec des Français dans leur langue maternelle et c'est une excellente façon d'apprendre. C'est la motivation. Alors, peu importe vos motivations, une fois que vous avez choisi la langue que vous voulez apprendre, il est crucial de s'engager et de ne pas lâcher. S'immerger dans la langue, justement, comment faire? Il recommande, Mathieu, l'approche 360. Il a décidé d'apprendre une langue, il y va à fond et il essaie de l'utiliser un peu tous les jours en écoutant la radio, en se parlant lui-même, en écoutant de la musique ou encore en lisant des courriels. S'entourer aussi, s'immerger dans la culture associée à cette langue est extrêmement importante. Rappelez-vous que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que l'on vous réponde dans cette langue, alors qu'un bel Italien vous réponde en italien, ce serait très agréable. Être capable d'avoir ne serait-ce qu'une conversation simple est une récompense incroyable. Trouvez-vous un partenaire. Mathieu, lui, a appris plusieurs langues avec son frère jumeau Michael. Ils ont commencé par apprendre le grec à l'âge de 8 ans. Alors, les deux frères polyglottes ont acquis leur super pouvoir sous l'effet d'une petite compétition entre frères. On se motive l'un et l'autre. Pouvoir parler avec quelqu'un est le but de tout apprentissage d'une langue. Rendez l'apprentissage utile. Si parler est votre but premier, bien, parler avec d'autres personnes permettra de conserver votre intérêt pour la langue. On apprend une langue pour être capable de l'utiliser et non pour la garder pour soi. Là où il faut être créatif, c'est de l'utiliser au quotidien. Alors, par exemple, écrire une chanson, essayer de parler à des natifs de la langue ou encore de communiquer lorsque vous êtes à l'étranger en voyage. Mais ce n'est pas nécessaire d'être en voyage. Allez au restaurant grec en bas de chez vous et commandez en grec un bon plat. Amusez-vous. Utilisez vos connaissances de manière créative. Cherchez des façons amusantes. Par exemple, écrire une pièce de théâtre radiophonique avec un ami, écrire un poème ou parler simplement à qui vous voulez. Comportez-vous aussi comme un enfant, ça c'est vrai comme adulte. L'idée selon laquelle les enfants ont de meilleures capacités d'apprentissage que les adultes tient de la légende. La clé pour apprendre aussi vite qu'un enfant est peut-être tout simplement d'adopter des attitudes enfantines. Par exemple, en évitant de se prendre trop au sérieux, ce qu'on fait nous les adultes, en n'ayant surtout pas peur de faire des fautes. C'est en faisant des fautes que l'on apprend. Or, ces fautes qui sont tout à fait acceptées chez les enfants deviennent tabous à l'âge adulte. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu un adulte dire « je ne sais pas »,« je ne sais pas nager », »,« je ne sais pas conduire », »,« je ne sais pas parler espagnol ». À la place, ayez une phrase positive comme « je n'ai pas encore appris à le faire pour l'instant ». Ah, Mathieu me regarde avec un beau sourire. Être pris à faire des erreurs est un tabou social par lequel les enfants ne se sentent pas concernés. Une fois que l'on accepte, comme adulte, de faire des erreurs, il faut aussi accepter de se mettre dans des situations potentiellement inconfortables, comme, par exemple, demander votre chemin, commander au restaurant, essayer de raconter une blague à vos interlocuteurs dans une langue seconde. À chaque fois que vous vous lancez dans ce type d'interaction, votre zone de confort va s'élargir peu à peu et vous gagnez en assurance. Écoutez, il faut apprendre à regarder avant d'apprendre à dessiner. Il en va de même pour l'apprentissage des langues. N'importe quelle langue vous paraît étrange la première fois que vous l'entendez. Mais plus vous l'entendez, plus vous vous familiarisez avec ces sons et il devient plus facile de parler. Pour moi, pour Mathieu, le meilleur moyen de maîtriser la prononciation d'un mot difficile est de l'entendre constamment, de l'écouter et d'essayer de visualiser ou d'imaginer la façon dont il doit être prononcé. Une autre belle façon, regardez les autres parler. La prononciation a des implications autant physiques que mentales. Si vous n'avez pas l'occasion d'observer et d'imiter un locuteur natif en direct, alors pensez à regarder des films ou la TV. Parlez-vous, c'est ça pour pratiquer. Détendez-vous, relaxez, vous n'allez pas agacer vos interlocuteurs en faisant des fautes lorsque vous parlez leur langue. Si vous entamez une conversation, expliquez-leur que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Ils seront heureux et vont vous encourager et vont vous aider. Mais apprendre dans quel but? Apprendre, après s'être penché sur le comment, encore faut-il savoir pourquoi on apprend une langue. Chaque langue possède une façon différente de voir le monde. Parler une nouvelle langue ouvre la possibilité d'adopter des visions du monde quelque peu différentes de la nôtre. Et vivre en ne parlant qu'une seule langue est pour Mathieu la façon la plus triste et ennuyeuse de voir le monde.
Uma canção que não quer dizer nada. Você não fala mesmo português. Um monte de palavra improvisada, cantada. C'est une chanson de moitié de parole. De toute façon, tu ne parles pas français. Alors j'invente un peu, je rafistole, racole. C'est toi, meu coração, que j'aime, meu bem querer. J'aurais voulu te contar, mais tu vas rien entender. Les mots me font défaut, alors je donne ma langue au chat pour qu'il ronronne. servir pra se falar. A língua a gente usa pra beijar.
Alors, nous revoilà après une belle chanson bilingue, donc après les 10 trucs pour apprendre une nouvelle langue, donc bilingue de Bia. Alors, je vais peut-être vous incorporer de l'italien dans les quelques semaines qui viennent, mais on ne sait pas. Alors, moi, je regardais ça pour l'environnement, organiser son frigo pour éviter de gaspiller des aliments. Ce qui est très difficile, surtout quand on habite seul, c'est un peu complexe, mais je trouvais ça intéressant comme article. Alors, c'était publié par Émilie Bilodeau dans la presse du 27 août dernier. Le gaspillage alimentaire est l'une des plus grandes préoccupations environnementales des Québécois. Par contre, plus de la moitié de la population ignore comment ranger efficacement son réfrigérateur pour prévenir le gaspillage. C'est ce que révèle un sondage réalisé pour les magasins IGA et Le Jour de la Terre. Si 57 % des répondants placent leurs nouveaux aliments dans le fond de leur réfrigérateur et leurs aliments moins récents en avant, seulement 44 % des répondants affirment ranger leurs légumes dans les tiroirs ou sur les tablettes du bas. Surtout, 62 % des personnes sondées affirment qu'elles surchargent leur réfrigérateur. C'est une question de température, explique Pierre Lucier, directeur du Jour de la Terre. On va mettre les aliments périssables comme le lait, les œufs et la viande dans le haut du frigo où c'est plus froid. Les légumes et les fruits, quant à eux, n'ont pas besoin d'une température aussi basse. On peut donc les placer en bas et ainsi optimiser l'utilisation du réfrigérateur. De toutes les préoccupations environnementales des Québécois, le gaspillage alimentaire arrive en deuxième position, derrière le recyclage. Les Québécois sont davantage préoccupés par le gaspillage de nourriture que par leur consommation d'électricité ou d'eau potable, révèle le sondage. Étant donné, j'imagine qu'on a les deux qui est surdisponible pour nous. Alors, blâmer l'autre. Même s'ils sont soucieux de moins jeter d'aliments, les Québécois semblent avoir une perception erronée de la réalité. Les répondants blâment principalement les restaurateurs comme étant les plus grands gaspilleurs. Pourtant, ces derniers ne commettent que 8 % du gaspillage, selon quelques études, notamment celle du Value Chain Management Center. Les répondants estiment d'ailleurs que le gaspillage à la maison ne représente que 22 % de tout le gaspillage. Selon le Value Chain Management Center, cette donnée s'élève plutôt à 47 %, ce qui fait des consommateurs les plus grands gaspilleurs. Pour réduire le gaspillage à la maison, Pierre Lucier suggère de congeler les aliments achetés en trop grande quantité le plus tôt possible et en petites portions. Tout le monde devrait aussi avoir une boîte ou une tablette dans le réfrigérateur avec les aliments qui doivent être consommés en priorité durant la semaine, dit-il. IGA et Le Jour de la Terre ont commandé ce sondage dans le but de mieux comprendre le gaspillage alimentaire et de mieux outiller les consommateurs. Dès le 10 septembre, des chefs de la Tablée des chefs et des experts en gaspillage alimentaire parcourront la province pour donner des ateliers sur le sujet. Le sondage sur les Québécois et le gaspillage alimentaire a été réalisé sur l'Internet par Cube Recherche auprès de 1000 Québécois âgés de 18 ans ou plus. Et comme deuxième article, j'avais les thés d'Amos.
Amos en Abitibi, là.
Amos en Abitibi. Ouais. Donc, ils ont des ingrédients qui viennent de cette région-là, mais aussi d'autres régions. Mais c'est une belle compagnie qui prend son envol. Alors, c'est Karine Duplessis-Piché qui a publié cet article dans la presse le 27 août dernier. Dans une petite ville d'Abitibi, qui est surtout connue pour son eau de source, sa forêt et ses hivers rigoureux, une florissante entreprise se démarque en commercialisant un produit inusité à de telles latitudes, du thé. La société Tea Taxi prépare des thés savoureux à Amos, une ville de 12 000 habitants située à 600 km au nord-ouest de Montréal. Elle commercialise, dans des boîtes pimpantes et colorées, des mélanges fruités et audacieux. « Nous avons 150 thés, dont une vingtaine sont uniques », explique le directeur général de l'entreprise, Dave Tremblay. « Ce sont nos créations, nos mélanges. Chaque catégorie de thé est associée à une couleur et à un animal originaire du même endroit que les feuilles de thé. C'est ainsi que le thé blanc de Chine est illustré par un singe sur un fond bleu et qu'un éléphant sur fond rouge se trouve sur les rooibos d'Afrique. » Les feuilles de thé ne proviennent pas toutes des autres continents. Certaines sont récoltées au Québec. Tea Taxi utilise en effet le thé des bois et celui du Labrador dans son mélange. Coureur des bois. L'entreprise va bientôt commercialiser un coffret aux saveurs de l'Abitibi, dont une boisson sera aromatisée aux champignons Chaga. Mmh. Je trouve ça super intéressant. Croissance rapide. Caroline Roy et Simon Letendre, fondateurs de Tea Taxi, ont découvert le thé en s'intéressant à un autre produit japonais, les sushis. Déjà propriétaires d'un restaurant de sushis, ils ont décidé de trouver des fournisseurs et de préparer leur propre mélange plutôt qu'ouvrir une franchise de boutique de thé. Au début, les boîtes colorées étaient préparées dans leur sous-sol. Mais très vite, le local est devenu trop petit. Moins de 2 ans après avoir vendu son premier mélange, la petite entreprise a ainsi emménagé dans une usine. L'entreprise croit à une vitesse grand V, soutient Dave Tremblay. Le marché américain s'avère très intéressant et notre concept pourrait tout autant faire fureur aux États-Unis que partout ailleurs au Canada. Tea Taxi n'a pas pignon sur rue. Ses mélanges sont vendus en ligne et dans plus de 240 pharmacies au Québec. On vient d'une région, ajoute Dave Tremblay, et on n'a pas toujours un David's Tea dans notre ville. En allant dans les pharmacies, on essaie de rejoindre un maximum de clients près de chez eux. Chaque personne a un dossier dans une pharmacie. Et le prix, puisqu'ils n'ont pas de locaux à payer pour leur point de vente, les thés de Tea Taxi sont moins chers. Leurs mélanges sont vendus en moyenne 1 $ de moins les 50 grammes que ceux de leurs concurrents. 3 mélanges à découvrir. L'emmitouflé, j'adore les noms.
C'est beau.
Ce mélange de rooibos, de gingembre, de noix et de fruits tropicaux est délicieux. Ses notes fruitées et épicées donnent le goût d'en faire des provisions pour les froides soirées d'automne. On n'est pas rendu là. Comme il ne contient pas de caféine, on peut le siroter avant de se mettre au lit. Mangue festive. Cette tisane est le produit le plus populaire de Tea Taxi et ça se comprend. Ce mélange de fruits tropicaux met en valeur le goût sucré de la mangue. C'est goûteux et savoureux. On le sert chaud ou froid. Rose du Japon. Quel beau compromis entre la tisane et les thés puissants. Ce thé blanc aux arômes de rose est parfumé, soyeux et tonifiant. C'est la boisson parfaite pour nous donner de l'énergie à 15 heures pour terminer la journée en beauté.
Alors, à propos de thé, donc, avez-vous pris votre déjeuner? Bien déjeuner. Donc, pour un matin zen, donc il est encore l'heure, surtout ceux qui n'auraient pas passé une mauvaise nuit, le déjeuner permet de faire le plein d'énergie et le vide de stress. Le mot déjeuner, dé-jeuner, signifie briser le jeûne, précise Laurent Chamdelaine, nutritionniste chez Extenso. Le matin, notre corps a besoin de carburant. Après avoir mangé, on s'en sentira énergisé. On aura une meilleure concentration et une meilleure mémoire à court terme. Bref, on sera mieux équipé pour affronter le stress de la journée. Un autre avantage, prendre notre repas du matin nous permet de jouir d'une alimentation plus complète, des portions de fruits, de produits laitiers, de céréales ou de protéines qui peuvent être difficiles à reprendre durant la journée. Pas faim le matin ? Laurence Chapdelaine conseille simplement d'être à l'écoute de son appétit. C'est tellement plus plaisant de manger quand on a faim. On peut commencer la journée avec un fruit, un smoothie, un bon thé. Pourquoi pas une boisson vitaminée, du yogourt, du gruau maison, bref. Prévoir des collations pour l'avant-midi. Le but, c'est de ne pas partir l'estomac vide.
Alors, pour ceux qui se joignent à nous, alors bonjour à vous qui se joignez à nous. Dans la prochaine demi-heure, les sujets, être heureux et philosophe, font-ils bon ménage? Et Louise, c'est un sujet de Christine. Et Louise, elle, va nous parler de « Il ne faut pas les cacher ». On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on va le savoir. Ah! On ne le sait pas. Alors, oui, je sais que je parle trop. C'est un article et je vous en reparle un peu plus tard. Alors, on se retrouve à l'autre côté de 9h30.